cet après-midi, on va voir le plus grand miracle. Le plus grand miracle. Je suis en train de relire l'évangile de Jean, et dans l'évangile de Jean, il y a le plus grand miracle. Alors peut-être que certains diront, mais le plus grand miracle, pour moi, c'est la mer Rouge qui va s'ouvrir. C'est vrai que c'est un miracle, un grand miracle. D'autres diront, c'est la manne pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il se baissait, il prenait le pain qui descendait du ciel. C'est un grand miracle. Peut-être pour d'autres, le grand miracle, ça sera les murailles de Jéricho. Hein. Peut-être pour d'autres, ça sera la résurrection avec Élie, ou la résurrection avec Élisée, etc., etc. On pourrait citer des grands miracles. Mais le plus grand miracle, il se trouve dans l'évangile de Jean. On va le lire ensemble. On va lire la fin du chapitre 2 de l'évangile de Jean et les 7 premiers versets du chapitre 3. Jean chapitre 2, verset 23. « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Voilà, ça c'est la fin du chapitre 2. Chapitre 3. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus, de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas qu'il faut que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. On va arrêter là la lecture. Le plus grand miracle, c'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est le miracle de la conversion. Jésus dira à cet homme, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Alors c'est vrai que peut-être que vous êtes venu, vous avez des souffrances, etc., des douleurs. Dieu veut vous guérir et il va le faire. Amen. Il va le faire, il veut le faire. Mais le plus grand des miracles, c'est celui de la nouvelle naissance, c'est celui de la conversion. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est le plus grand des miracles. Quand le Seigneur change notre vie, quand nous passons la nouvelle naissance, c'est un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Ça, c'est le plus grand des miracles. C'est le miracle qui nous ouvre la porte du ciel, la porte du paradis, la porte de l'éternité. Je peux connaître un temps de guérison, même une intervention du Seigneur dans notre corps, et je peux m'égarer et me perdre. Mais le plus grand des miracles, c'est celui de la nouvelle naissance, c'est celui de la conversion. Amen. Amen. Cherchez pas un plus grand miracle, c'est celui-là. Quand un homme, une femme fait la paix avec Dieu, rencontre le Seigneur, l'accepte et marche avec lui tous les jours de sa vie. On a déjà quelques aspects là de la nouvelle naissance. D'ailleurs, on va essayer de le décortiquer bien simplement. Mais je relisais ce texte volontairement. On a lu la fin du chapitre 2 parce que le verset 23 déjà m'interpelle quand il est dit ceci. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Donc là, il y a eu des conversions des hommes et des femmes qui ont été touchés dans leur cœur. Mais il me semble que le début de la conversion doit passer justement par la Pâque. Je ne peux pas prétendre être né de nouveau, converti, changé, sans passer par la Pâque. C'est la Pâque qui m'ouvre cette nouvelle naissance. Et on sait ce que c'est. Déjà pour l'Ancien Testament, la Pâque, c'était quoi la Pâque dans l'Ancien Testament? La li B, dites-le. Libération, c'est quand le peuple est sorti de l'esclavage de 430 ans. Et quand on se convertit, c'est la libération, le Seigneur nous libère. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, libre, amen. Et Exode 12, c'est la première Pâque, donc la conversion, eh bien, elle passe par la Pâque. Je ne peux pas prétendre appartenir au Seigneur sans passer par la Pâque, sans laisser la Pâque toucher mon cœur, sans laisser la Pâque changer ma vie. C'est la libération. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi? Vous êtes là? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Amen. C'est la mort et la crucifixion et la résurrection de Jésus. Vous le savez, vous l'avez entendu. Mais ce qui fait notre joie cet après-midi, c'est que le Christ est au milieu de nous et qu'il est ressuscité, et qu'il est vivant. Sinon, cette réunion, elle serait vaine. Et tout ce qu'on pourrait dire, même de le plus beau, le plus grand des orateurs, serait vain. Mais c'est parce que Dieu, par le Saint-Esprit, est au milieu de nous, que cela nous fait du bien et qu'il veut encore agir. Amen. La Pâque. Il faut qu'il y ait la Pâque. Il faut qu'il y ait la Pâque dans votre vie. C'est le début de la conversion. Ce qui a attiré mon regard aussi, je souris un peu, parce que le verset 24 dit ceci, « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. » Moi, je ne vous connais pas. J'en connais quelques-uns. Jésus nous connaît tous individuellement et particulièrement. Même si vous ne le connaissez pas, lui, il vous connaît. Lui, il vous connaît. Il nous connaît, il connaît notre date de naissance, il connaît tout. Il connaît tout, tout de notre vie. Je disais ce matin, pour moi, ça peut être une révélation, mais Dieu sait tout et en même temps. Il y a un peu d'écho, je ne sais pas. Dieu sait tout et en même temps. Il sait tout de votre vie, madame. Il sait tout je le disais ce matin, il sait tout du chinois. Il sait tout et en même temps, ça nous dépasse. Il sait tout de chaque individu et en même temps. Ça s'appelle l'omniscience de Dieu. Il sait tout. Il connaît tout de nous. Il sait ce que vous êtes en train de penser, si peut-être que ce soir vous allez manger des sushis ou des nems, je ne sais pas, mais vous allez faire une raclette, ou je ne sais pas, mais il sait tout de nous. Il sait tout. Il connaît tout de nous. On ne peut rien lui cacher. Il lit dans notre vie, dans notre cœur, comme dans un livre ouvert. Et je pensais à ce texte, je ne peux pas parler de ça sans parler de ce que le psalmiste dit dans le psaume 139. Regardez avec moi dans le psaume 139. Le psalmiste dit ceci, c'est David qui dit ceci au chef des chantres, verset 1er, il dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Ça, quand même, Seigneur, mais il sait tout et en même temps. Il sait tout de vous, mes frères. Et vous qui êtes là, messieurs, il sait tout de vous. Ouh, il sait tout de vous. Rien ne lui échappe. Et bien sûr, les dames aussi, hein, vous n'êtes pas... Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds. Voilà, c'est simple, c'est basique. Jérémie, tu es assis. Tu sais quand je m'assieds, tu sais, et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma bouche que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Je vais un peu plus loin. Verset 6. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, parce que des fois on est comme ça, hop. Hein? Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière. Même dans la nuit, il voit comme en plein jour le Seigneur. Hein? Il est la lumière du monde. Amen. Et ensuite, il dira aussi, vous êtes là. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. J'aime ce texte. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché. Je passe le verset 15. Verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Il connaît tout de nous. Il sait tout. il sait tout. Et c'est pour cela que David vraiment ouvre son cœur, et au verset 23, on cite souvent, plus souvent ces versets, versets 23 et 24, « Sonde de moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il dit « Seigneur, tu connais tout, alors ben, touche-moi et conduis-moi. » Il sait tout de nous, il sait tout, il connaît tout, il n'y a rien qui lui échappe. Amen. On revient à notre texte. Et toujours dans ce début de texte, ensuite il est dit ceci au verset 25, « Et parce qu'il n'avait pas besoin, donc il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Il dit « Seigneur, c'est vrai. S'il y en a un qui sait bien ce qu'il y a dans l'homme, c'est bien Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est le Créateur. Il nous a créés. Il nous a créés à son image. On ne descend pas du singe ni du poisson. Hein ? On a été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. C'est lui qui a pris de la terre, il a formé un corps, il a soufflé. C'est lui qui nous donne la vie. Amen. C'est lui qui nous donne la vie. Bénissez Dieu, vous qui êtes là. Bénissez Dieu. Hein, quand on regarde les hôpitaux, les maisons, c'est terrible. Celui qui nous donne la vie, c'est le Seigneur. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'y est pas. C'est terrible. Hein. Il nous connaît tous. Hein, et il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Bien sûr, quand on lit le début de la Genèse, jusqu'au chapitre 2, tout allait bien. Et après, il sait encore ce qu'il y a dans l'homme. Et au jour d'aujourd'hui, ce qu'il y a dans l'homme, c'est pas terrible. Hein. Il a été créé à l'image de Dieu, puis l'homme a péché, la femme a péché, on sait ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et je repensais à tous ces quelques versets que j'ai mis simplement comme cela. Tiens, Jérémie 17, 9, tu dois le connaître celui-là. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître ? Ça, c'est bien sûr après la chute. Ça, c'est le cœur de l'homme. Il ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Je pensais à ce que disait Paul. Paul dira, je suis le premier des pécheurs. Je pensais à ce texte. Juste des phrases comme ça qui me sont venues à l'esprit. Luc chapitre 15, le fils prodigue. Et il dira ceci, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé toi. J'ai péché. Je pensais encore à Luc 18, le publicain qui se frappait la poitrine et qui disait, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et juste pour conclure cette pensée, Michée dit ceci. Oh, Michée, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Il dit, le meilleur dans... Michée, soulignez-le ce verset. Michée 7,4. Michée dit, le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Il y a beaucoup d'orties ici, j'ai remarqué. Il faut faire attention quand on fait du vélo, parce que si on tombe, hein, quand on monte une côte et qu'on tombe dans les orties, c'est pas évident. C'est des tapis... C'est vrai ou pas ? Il y a des orties partout. Dès qu'il y a un peu d'eau, on va parler de l'eau tout à l'heure, si on a le temps, on parlera de l'eau. Mais alors c'est nourri, c'est je voyais des... Bon, je vous le dirai après, sinon je vais m'égarer. Là. Allez, je lis le verset. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Et je pensais à ce que disait Paul quand il disait, quand je veux faire le bien... Et le mal est attaché à moi, misérable que je suis, qui peut me délivrer. Voilà, le Seigneur ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et il sait ce qu'il y a dans l'homme. Mais la bonne nouvelle, on arrive là à la bonne nouvelle, c'est qu'au chapitre 3, il y a un mais. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens. Je voudrais vous dire qu'il y a un mais. Mais il y a une solution. Mais l'homme peut faire la paix avec Dieu. Mais l'homme peut être sauvé, mais l'homme peut être guéri, mais l'homme peut être béni, mais l'homme peut faire une rencontre éternelle avec le Seigneur. Et même dans cet après-midi, il y a un mais. Et ce mais, c'est au travers de cet homme-là. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Il faut qu'il y ait ce mais. C'est ça, c'est la solution. Il y a une solution. L'homme est pécheur. Il sait comment est le cœur de l'homme, le Seigneur, mais il nous donne la solution. La solution, elle s'appelle Jésus, et bien sûr, c'est passé par cette nouvelle naissance. Nicodème. J'ai regardé la signification de Nicodème. Vous connaissez la signification de Nicodème ? Nicodème, ça c'est important, parce que quand on lit le texte, Nicodème c'était quand même un chef religieux, il était responsable de synagogue, et cet homme va venir vers Jésus, on l'a lu. Nicodème signifie vainqueur du peuple. Et c'est important ça, vainqueur du peuple. Il ne s'est pas arrêté à sa fonction, il ne s'est pas arrêté à ses responsabilités, il était chef, mais il est venu vers Jésus. Vous voyez, il est passé au-dessus de sa responsabilité, au-dessus du peuple. Peut-être que le peuple aurait pu lui dire, il aurait pu lui dire, mais comment tu vas vers cet homme, tu sais pas qui c'est, toi tu es chef, toi tu es responsable, toi tu es en vue de la synagogue. Mais non, il est passé au-dessus, il a été le vainqueur. Et vous savez, des fois, ça se passe comme cela pour certains. Mais comment tu vas dans cette église, mais ceci, mais fais attention, etc. Tu rentres dans une secte, etc., etc. Je voudrais vous dire que monsieur, on va l'appeler monsieur, monsieur du quand dira-t-on, ne vous sauvera pas. Vos amis ne vous sauveront pas. Vos parents ne vous sauveront pas. Il n'y en a qu'un qui peut nous sauver, c'est Jésus. Amen. Alors passez, soyez les vainqueurs, vainqueurs peut-être sur celui qui vous dira « mais arrête d'aller, arrête de fréquenter cette église ». Passez au-dessus et soyez les vainqueurs comme Nicodème a été le vainqueur. Il ne s'est pas arrêté à toutes les fonctions qu'il avait, mais il est passé au-dessus. Et vous aussi, vous pouvez passer au-dessus du quand dira-t-on des amis, des connaissances. Vous savez, des fois, les amis, les connaissances, ils nous freinent. Hein. Comment tu vas changer? Je me rappelle quand je me suis converti. Ah, mais qu'est-ce que tu es devenu témoin de Jéhovah? Tu es devenu ceci, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas nés de nouveau. Tant que les écailles ne sont pas tombées, tant que le cœur n'est pas touché, tant qu'on n'a pas donné sa vie à Jésus, vous savez, on pense beaucoup de choses. Mais ne vous laissez pas intimider par tous ces freins, parce que on en rencontre des freins. Laissez-vous toucher par la grâce du Seigneur cet après-midi. Nicodème, vainqueur du peuple. L'attitude de la nouvelle naissance. Regardez, on la trouve au verset 2. Il est dit ceci, Nicodème vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi. Déjà, il y a deux pensées. Il me semble que la nouvelle naissance, c'est d'aller vers Jésus. Il a été vers Jésus. Je pensais à ce texte tout simple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, quand Jésus dit « Venez ». Vous connaissez ce verset? Vous le connaissez ce verset? Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, etc. car je suis doux. » Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et des fois on est comme cela, et cet après-midi, venez. Et il a été vers Jésus. Première attitude, c'est d'aller vers le Seigneur. Ensuite, il le reconnaît comme Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Ah là là là, ça se corse un petit peu. Hein. Et il lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Rabbi, ça veut dire maître. Il reconnaît que Jésus, c'est le maître. Et je crois que la nouvelle naissance, c'est de reconnaître que Jésus, c'est notre maître. Et de ne pas avoir honte de dire que Jésus, c'est notre maître. Non seulement c'est notre sauveur, Jésus ne s'arrête pas à notre sauveur, Jésus, c'est notre maître. Jésus, c'est notre Seigneur, et Jésus, c'est le roi de notre cœur. Amen. Amen. Ça, c'est ça la conversion. Ça commence par reconnaître que Jésus est le maître. Je pensais à ce texte de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, quand Paul dit... Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On n'a pas honte de dire, hein, la nouvelle naissance, eh bien, c'est de dire que Jésus, c'est notre maître, c'est lui qui conduit notre vie, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous amène vers le bien. Amen. Et il nous amènera toujours vers le bien. Je pensais à ces versets dans Matthieu chapitre 6, 24, où Jésus dira, nul ne peut servir deux maîtres. Il n'y en a qu'un, hein. Nul ne peut servir deux maîtres. Il dira aussi dans Matthieu 9, 38, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La nouvelle naissance. Toujours dans ce même verset 2, il lui dira, tu es un docteur venu de Dieu. Et on va s'arrêter. Tu es le docteur venu de Dieu. Je voudrais vous le dire, et parce que, bon, ben, la vie fait que des fois on passe... et on voit des docteurs et on voit des chirurgiens. Et moi, je voudrais vous encourager, j'ouvre juste une parenthèse, de prier pour les médecins et de prier pour les chirurgiens. Et on n'est pas contre. Et on n'est pas contre la médecine. Et on prie pour que Dieu donne de l'intelligence à ces hommes. Parce que quand c'est vous qui êtes sur la table, il vaut mieux que le gars il soit intelligent, hein. Il ne faut pas qu'il se soit disputé avec sa femme, qu'il soit en paix. Et on fait bien de prier. Parce qu'ensuite, ils sont entre vos mains. Entre leurs mains. Nous sommes entre leurs mains, pardon. Hein? Il vaut mieux que Dieu donne, que Dieu qualifie. Il y a des docteurs. Je crois que je l'ai mis sur mes notes d'ailleurs. Parmi les évangélistes, il y a un médecin. Un médecin, Luc. Luc était médecin. Et on doit prier. On doit prier pour ces hommes. Parce que c'est des hommes. Et des fois, ils peuvent être aussi fatigués, ils peuvent être aussi éprouvés. D'ailleurs, on le voit, je ne vais pas rentrer sur tous les débats de la médecine, mais il y a de moins en moins de médecins généralistes. Il y a des régions où ils font venir des médecins parce qu'il n'y en a plus. Il y a des villages où il n'y a plus de médecins. Et on doit prier pour la médecine, on doit prier pour que Dieu les qualifie. Maintenant, après, l'homme est limité. Mais certains médecins honnêtes vous le diront. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils referment. Et puis ils laissent faire. Mais Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Amen. Jésus, c'est... Je ne dis pas pour passer du temps, mais Jésus est au-dessus de tout. Il est le docteur des docteurs. Amen. C'est le docteur venu de Dieu. Et quand l'homme est limité... Quand l'homme ne peut pas guérir l'âme, le Seigneur, il n'y en a qu'un qui peut guérir l'âme. On va vous donner des traitements, des tranquillisants, des tranxènes et ceci et cela pour calmer la personne. Mais celui qui change notre être intérieur, celui qui touche notre âme, celui qui guérit notre âme. Vous savez, je disais que c'était le plus grand miracle à la nouvelle naissance, c'est-à-dire l'être intérieur qui est changé, accepter Jésus. Et l'âme, c'est pareil, ils n'arrivent pas à soigner l'âme. L'homme n'arrive pas à soigner l'âme. Il n'y en a qu'un qui peut soigner l'âme. On donne des traitements, mais on ne soigne pas. On ne soigne pas celui qui peut soigner l'âme et guérir l'âme. C'est le Seigneur. Je crois que c'est Jérémie qui dit dans le chapitre 1er que... Ah, ça me revient là. J'espère que je ne me suis pas trompé. Mais il me semble que c'est Jérémie dans le chapitre 1er, non ? Aidez-moi. Ouh ! Oui. Non, ce n'est pas Jérémie. Où il dit que... c'est Ésaïe. C'est Ésaïe, la tête est malade, le corps entier, c'est Ésaïe, oh là là. C'est l'âge ça, hein. Voilà, c'est Ésaïe, ça y est, ça me revient, c'est Ésaïe. Quand il dit, quel châtiment nouveau vous infligez, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Mais celui qui peut transformer, celui qui peut changer tout notre être intérieur, c'est bien le Seigneur. Amen. Amen. Et j'insiste, hein, prions pour les médecins, prions pour les chirurgiens. Vous savez, j'ai été opéré plusieurs fois, je ne vais pas vous donner mon témoignage, cancer de la thyroïde, etc. Mais quand vous êtes entre les mains de ces hommes, en fait, une fois que vous êtes anesthésié, ils peuvent vous couper en morceaux. Hein. Ils te découpent en morceaux, tu sens rien. C'est fini, il n'y a plus de marque, il n'y a plus personne. C'est vrai ? C'est vrai ? Quand vous sentez le produit, là. Qui c'est qui a été anesthésié, déjà ? Levez la main. Voilà, c'est l'effort de l'année. Allez, levez la main. Chut. Tu sens le produit, là. Oui, c'est fini, ils peuvent te couper. Mais Jésus est au-dessus de tout. Jésus, c'est celui qui guérit l'âme. Et l'âme d'aujourd'hui, l'âme de l'homme, elle est malade. Elle a besoin d'être guérie. Et que personne ne vienne me dire le contraire, parce qu'on le sait. On le voit quand on discute, au début ça va bien, oui tout va bien, et puis quand vous restez 10 minutes, un quart d'heure avec la personne, elle s'ouvre un petit peu et vous voyez que c'est la catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur est malade, l'intérieur est malade. Et l'intérieur, c'est le Seigneur qui peut le guérir et c'est le Seigneur qui veut le faire dans cet après-midi. Vous voyez, Jésus c'est le docteur des docteurs. Amen, c'est celui qui guérit l'âme. Et il dit, je ne sais pas ce que... Je vais arrêter. Il vient auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En fait, il venait de faire un miracle, sans aller trop loin. Je me suis pas trop cassé la tête. Le premier miracle, il est juste mentionné dans les versets qui précèdent. Hein? C'est le miracle de quoi? C'est son premier miracle. Quel est le premier miracle de Jésus? Eh oui, c'était dans un mariage. Hein? Les mariages, ils duraient 8 jours. Quand on se marie maintenant, qu'on prépare un mariage d'une journée, on met une année, pensez, 8 jours. Il fallait approvisionner la nourriture. Là, ils avaient peut-être un peu trop appuyé sur le rouge, je ne sais pas, mais il n'y avait plus de vin. Hein? Et Jésus, c'est celui qui fait des miracles. Et il a fait son premier miracle lors d'un mariage. Je me mets à la place du marié, de la mariée, vous vous rendez compte? Ils se marient et déjà ils sont dans l'épreuve. Oh, il manque le vin. C'était dramatique à l'époque. Hein? Il fallait que rien ne manque. Tout le monde était invité. Il n'y avait pas d'invitation. Là. Ils venaient, ça rentrait, ça sortait pendant 8 jours. Vous vous rendez compte? Donc il fallait approvisionner. Il y avait l'épreuve, mais Jésus a été là et l'épreuve a disparu. L'eau a été changée en vin. Amen. Ça, c'est le miracle. Jésus, c'est celui qui fait des miracles. On aurait pu repasser tous les miracles. Et Jésus, et laissez-moi vous dire que Jésus, puisqu'il a fait son miracle lors d'un mariage, ce qu'on doit souligner, c'est que Jésus est pour le mariage à 100%. En dehors du mariage, non. Mais pour le mariage d'un homme et d'une femme, s'il vous plaît. Oui, il faut le préciser maintenant. Hein? Et je ferme la parenthèse. Jésus est pour, et pour à 100%. Hein, que Dieu soit béni. Donc, c'est celui qui fait des miracles. La nouvelle naissance, le Seigneur lui dit, je m'arrêterai là 30 secondes, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître d'eau. On peut souligner, je vais juste souligner les 3 pensées concernant l'eau. D'abord, l'eau, c'est ce qui vous désaltère. Je disais tout à l'heure, j'ai voulu monter un petit peu quelques cols là, et l'eau, elle coule partout ici, c'est formidable, hein. L'eau, ça coule. De tous les côtés, il y a des ruisseaux, quels que soient les endroits où vous allez. À chaque, j'avais demandé à votre pasteur, parce qu'il faut faire le plein d'eau de temps en temps avec le vélo, sinon c'est l'essence du vélo, quoi, l'eau. Hein. S'il n'y a pas d'eau, vous n'avancez plus. Hein. Et j'ai dit, dans les villages, il y a des fontaines. Dans chaque village, il y a des fontaines. L'eau fraîche qui coule comme ça. J'ai pris ma gourde là, je m'arrosais. Premièrement, l'eau, elle désaltère. Et en fait, l'eau, c'est la vie. Hier, on était avec nos petits-enfants, on a été au parc, là, vers Auchan, là. Il y a un point d'eau, mais voilà, ben, tous les gamins sont attirés dès qu'on voit l'eau. Même nous, adultes, hein, on voit des jets d'eau, etc. L'eau, c'est la vie. Et on sait tout ce qui s'est passé dans le désert à cause de l'eau. Ça, première pensée, l'eau. Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Hein? Amen. Celui qui boira de cette eau, il aura encore soif, il dira à la Samaritaine. Jésus dira, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le Seigneur, c'est celui qui nous désaltère. Deuxième pensée de l'eau, ça nous parle aussi de la parole. Dans Éphésiens chapitre 5, il est question d'être lavé par l'eau de la parole. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle est comparée à de l'eau, elle nous lave. Et quand on lit la parole de Dieu, elle lave notre être intérieur. Et puis, l'eau aussi, dans la parole de Dieu, c'est l'image aussi du baptême d'eau. Jésus a pris le baptême à quel âge? À 30 ans, pas à 40, à 30. À 30 ans. Et on voit tout au long de la parole de Dieu des hommes qui s'engageaient, le temps me manque, mais je pensais à cette histoire de Philippe, les hommes sont venus, les femmes sont venues, ils se sont engagés, hommes et femmes se firent baptiser, il y a eu un réveil en Samarie, et Jean-Baptiste a baptisé des foules le jour de la Pentecôte, quand ils ont entendu le discours de Pierre, dites quand même, il est dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Il y a eu des conversions des hommes et des femmes. Et la nouvelle naissance, elle passe aussi par le baptême d'eau. Ne tardez pas. Engagez-vous. Allez voir votre pasteur et dites-lui, je me donne cet après-midi. Je veux m'engager. Je me souviens quand j'ai écouté l'évangile, il n'était pas question de traîner pour être baptisé. Il n'était pas question. Et au prochain baptême, je veux m'engager. Amen. Et Dieu prend soin de nous et Dieu nous encourage. Naître d'eau et puis naître de l'Esprit. D'abord, reconnaître qu'il y a un Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, nous on parle, on rapporte quelques effets. De temps en temps, le Seigneur nous donne quelques lumières de sa parole. Mais celui qui touche nos cœurs, celui qui a changé nos vies, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu appuie nos paroles. Et le Saint-Esprit, c'est lui. Et je lisais ce texte avec le frère tout à l'heure, parce qu'on parlait d'un passage. Et je voudrais juste, pour conclure, juste dire ce texte, naître d'eau et naître de l'Esprit. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et un jour, on a été touchés. On ne sait pas ce qui s'est passé. On aurait pu écouter des témoignages. J'ai été touché. J'étais là. Souvent, ils le disent. Bon, ça, c'est pas notre. Ça, c'est peut-être pour nous garder dans l'humilité. Souvent, quand j'entends les témoignages, les gens ils disent ce qui m'a touché, ça a été les chants. Ils disent, mais jamais, c'est la prédication. Hein? Ça, c'est pour nous tenir dans l'humilité. Oh, j'ai aimé les chants. Oh, j'ai été touché par les chants. Bon, alors, j'espère que vous avez été touché au moins par les chants. Hein, si vous n'avez pas été touché par la prédication. Hein? Mais c'est le Saint-Esprit qui nous touche. C'est le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur, on ne sait pas. Hein, notre âme s'éclaire, notre esprit s'éclaire, l'être intérieur est éclairé, on comprend que Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Amen. Hein, et le baptême d'eau, c'est aussi ça, ça passe par la repentance, reconnaître que le Christ a payé à notre place. Si on est là, c'est parce que le Christ a touché notre vie au travers du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment dans la ville de Gaffi.